Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Patrick Simon au micro. Alors aujourd'hui, nous allons nous entretenir des problèmes d'énergie avec un des experts les plus reconnus, puisque c'est Philippe Charlèze. Et Philippe Charlèze est bien connu de ses auditeurs de cette radio comme expert énergétique. Et bien connu à Radio Courtoisie et sur d'autres médias. Vous avez, Philippe, fait votre carrière dans le pétrole et le gaz, dans une grande compagnie française.
Que nous ne citerons pas.
Voilà.
Mais tout le monde l'aura dit.
Tout le monde aura compris. Mais ce que l'on sait moins, c'est que vous avez une formation, vous êtes ingénieur des mines et de l'école polytechnique de Mons, Mons en Belgique. Et que votre formation de base, c'est le charbon, le fer, le cuivre et l'extraction des autres métaux. Et vous êtes donc descendu dans de nombreuses mines, surtout de charbon. Et on pourrait commencer notre entretien en parlant de votre stage d'ingénieur dans une mine de tungstène au Portugal.
Absolument. Donc, je suis, comme vous l'avez dit, diplômé de l'école polytechnique de Mons en Belgique, qui d'ailleurs s'appelle aussi l'école des mines de Mons en Belgique, qui avait été créée en 1836 pour former des ingénieurs, puisqu'à l'époque, les ingénieurs des mines et aussi ingénieurs métallurgistes étaient absolument fondamentaux, puisque tout le sud, et le nord aussi, mais le nord de la France et le sud de la Belgique ont, je vous rappelle, au 19e siècle, fait toute l'industrie était pratiquement basée sur l'extraction du charbon, qui malheureusement s'est épuisé aujourd'hui et a cessé dans les années 70. La dernière mine de charbon dans le sud de la Belgique a fermé en 1981, si je me souviens bien.
Un peu comme en Angleterre.
Ouais. Voilà. Alors moi, j'ai fait mes études d'ingénieur des mines donc entre 1974 et 1979 à Mons. Et effectivement, on faisait à l'époque, en quatrième, fin de quatrième année, un stage. Et donc, le stage se faisait dans une mine. Et moi, j'ai eu la chance d'aller dans les minages de Panachquera, qui est situé au Portugal, entre, pour ceux qui connaissent, entre Castelo Branco et Covilhã, près oui. de la ville de Fundão. Alors, c'est dans la montagne. Et c'était à l'époque la première mine de tungstène d'Europe.
Qu'est-ce que c'est que le tungstène? Alors, le tungstène, par rapport au charbon.
Alors, le tungstène, le tungstène n'a rien à voir avec le charbon. Le tungstène est un métal qui est extrait d'une roche qui s'appelle la pegmatite à cassitérite, pour ceux qui connaissent. Alors la cassitérite, c'est de l'étain. C'est un oxyde d'étain. Et à l'oxyde d'étain est toujours associé l'oxyde de tungstène. Et donc le tungstène est un métal qui est très important parce qu'en fait, associé au carbone, ça fait un alliage très très dur que certains connaissent, hein, qui s'appelle le carbure de tungstène. Et avec le carbure de tungstène, un, on fabrique des armes, très important donc dans l'industrie de l'armement encore aujourd'hui. Ça, on fabrique aussi les filaments des lampes à incandescence. Alors aujourd'hui, avec les LED, c'est un petit peu différent. Mais les lampes à incandescence ont été fabriquées avec du tungstène. Au début, on utilisait plutôt du carbone, mais ça fondait trop tôt. Et donc, le carbure de tungstène, qui fond à très haute température, était très adapté pour les filaments des lampes. Et puis, on fait aussi des outils de forage avec ça, puisque c'est très dur pour forer et, je vais dire, râper la roche avec des outils de forage. On met des pastilles, car on fore au diamant, ça on le sait, mais pour essayer d'éviter le diamant qui coûte plus cher, on met du carbure de tungstène.
Et là, vous alliez au cours de votre stage donc dans la profondeur des mines.
Alors, ça n'était pas une mine en profondeur, on rentrait dans la mine à flanc de coteux. Non, c'était pas à ciel ouvert, c'était une mine souterraine, mais on ne descendait pas comme dans une mine de charbon avec un ascenseur, hein, dans un puits de mine, on rentrait carrément à flanc de coteau, puisqu'on rentrait dans la montagne, un petit peu comme si vous rentriez dans un tunnel.
Si je comprends. Voulez. Alors, amis auditeurs, vous avez compris que nous allons parler des matières premières, et nous allons évoquer un livre qui s'appelle « Matière vitale » d'un certain Ed Conway, qui est un économiste et qui a publié un livre très intéressant, publié, enfin la version française, la traduction française chez l'Artilleur, et qui examine, alors ce livre est très très volumineux et riche, Non, on ne pourra pas tout évoquer, évidemment, mais les matières vitales traitées par Ed Conway, c'est le sel, le fer, le cuivre, le sable, le pétrole et le lithium. Les six éléments, dit-il, sur lesquels repose notre monde. Alors, je voudrais commencer par le pétrole, puisque c'est quelque chose de tout à fait d'actualité, surtout en ce moment. Et on peut dire, pour faire comprendre ce que Ed Conway veut dire, que les milliards d'humains qui existent sur Terre n'auraient pas pu être nourris sans les progrès agricoles permis par le pétrole. Le pétrole a constitué, dit-il, je cite, « le grand accélérateur de la vie en déclenchant une révolution des modes de transport depuis le moteur à explosion jusqu'au dernier propulseur aéronautique. » Et ça a permis aux hommes de s'affranchir d'une grande partie de leur travail manuel, d'augmenter les revenus globaux et même l'espérance de vie. Notamment, la mortalité infantile et la malnutrition ont été freinées grâce au pétrole, grâce à ses dérivés. Et c'est pour ça qu'on peut considérer que le pétrole est une matière fondamentale. Alors vous, Philippe Charlès, vous avez travaillé dans une entreprise pétrolière
pendant 43 ans.
Qu'avez-vous à dire sur ce quasi-miracle de l'apport du pétrole?
Alors, ce que je vais dire, c'est que le miracle, c'est la révolution industrielle. La révolution industrielle, elle apparaît en Angleterre à la fin du 18e et elle apparaît en France et en Allemagne plutôt dans les années à partir de 1820-1830. Elle est un peu plus précoce. Mais le premier ingrédient de la révolution industrielle n'est pas le pétrole, c'est avant tout le charbon. C'est le charbon qui permet de faire tourner les machines à vapeur. Et on assiste en fait au 19e siècle, bien avant le pétrole, à une première transition énergétique. Avant le pétrole, à votre avis, qu'est-ce qu'on utilisait essentiellement pour faire du feu ?
Eh bien, le bois.
Le bois, bien évidemment.
Oui.
Et donc, on part au début du 19e siècle d'un mix énergétique qui est pratiquement 100% bois. Et on arrive au début du 20e à un mix énergétique qui est moitié bois, moitié charbon.
Le charbon qui est deux fois... plus dense que le bois, alors que le kérosène est deux fois plus dense que
le charbon. Absolument, vous avez tout à fait raison. Donc, c'est-à-dire que on va d'abord utiliser le charbon et tout va tourner au charbon, même les modes de transport. Les premiers bateaux à vapeur ne sont pas au pétrole, ils sont au charbon. Et même jusqu'au début de la guerre 14-18, on utilise le charbon. Et le pétrole, c'est un peu... Alors, bon, on va commencer à l'extraire à partir de la fin du 19e siècle. Mais il y a un homme, grand homme, qui fait en fait du pétrole un ingrédient absolument incontournable. C'est Winston Churchill. Winston Churchill a l'idée de dire que ça sera beaucoup plus simple de promouvoir le pétrole dans la marine que d'utiliser... le charbon, tout simplement parce qu'on remplit bien plus vite un réservoir de pétrole que d'utiliser le charbon, comme dans le Titanic, si vous vous rappelez, où vous avez un tas de pelletiers qui prennent des pelletés et qui envoient le charbon dans la chaudière. Va être un élément déterminant de la victoire navale des Anglais sur les Allemands au cours de la guerre 14-18, c'est d'avoir fait la mutation dans la marine militaire entre le charbon et le pétrole. Et c'est alors que le pétrole va commencer à devenir un ingrédient très important.
Oui, et on peut dire aussi, en ce qui concerne le kérosène par exemple, que moins on a besoin d'emporter de carburant dans un avion, moins un avion est lourd et plus il peut décoller facilement et donc il peut emporter plus de passagers.
Absolument. D'ailleurs, on n'a jamais fait mieux. On n'a jamais fait mieux comme énergie que le litre de pétrole. Parce que, comme vous l'avez dit, c'est extrêmement dense. C'est quatre fois plus dense que le bois et deux fois plus dense que le charbon en quantité d'énergie. C'est liquide, donc ça se transporte. Un liquide se transporte dans une tuyauterie bien plus facilement qu'un solide. Vous avez besoin d'un camion, etc. Et en plus, il est sous pression, sous terre, il sort tout seul. Donc, je veux dire, on n'a jamais rien inventé de mieux qu'un litre de pétrole.
Oui, c'est ça. Et donc, évidemment, ça a changé les choses fondamentalement. on peut dire que les énergies fossiles, charbon, gaz, pétrole, aujourd'hui, ça représente 80%.
81% du mix énergétique mondial.
Du mix énergétique,
et quand j'ai commencé ma carrière dans le pétrole en 1980, c'était 87%. Donc, pour vous dire qu'on a un tout petit peu baissé, mais très peu, mais surtout, c'est qu'on a baissé sur une quantité d'énergie qui a doublé. Donc, globalement, on a doublé notre consommation d'énergie fossile depuis 1980.
C'est ça. Alors que les énergies renouvelables, si j'ai bien lu Ed Conway, ça représente 1,5%.
Oui, alors ça dépend si on parle en... Alors, ce n'est pas 1% de l'électricité, c'est 1% de l'énergie globale.
Oui,
mais l'électricité ne représente elle-même que 25% de l'énergie globale. On est toujours dans une société qui est dominée par les fossiles et donc dominée par le thermique et non pas par l'électrique.
Oui, c'est ça. Alors, donc ça, c'est la situation aujourd'hui, mais assez récemment, il y a seulement quelques années, il y a eu une découverte par un certain George Mitchell, si j'ai bien lu le livre de Conway, qui vient changer la donne.
Oui,
c'est la fracturation hydraulique du gaz et du pétrole de schiste.
Alors, c'est pas vrai, c'est pas Mitchell qui a inventé.
Bon,
non, pas du tout. On a découvert dans les années 2006 la fracturation hydraulique. Moi, j'ai fait personnellement ma première fracture. Alors, c'est assez marrant. C'est tout à fait dans l'air du temps. J'ai fait ma première fracturation hydraulique quand j'ai commencé ma carrière pétrolière. C'était en 1982 et c'était dans le golfe Persique au large d'Abu Dhabi, juste à la frontière de l'Iran. Donc, pour vous dire.
Effectivement.
Voilà.
Oui.
Et la première fracturation hydraulique, elle a été faite en Oklahoma, si je me souviens bien, c'est 1947 ou 1948.
Ah, c'est si ancien que
donc
ça.
Donc c'est très ancien. Et donc ça veut dire que Mitchell, dont on parle, il a promu l'utilisation de la fracturation hydraulique, mais qui existait déjà depuis plus de 40 ans dans les pétroles, dans les gaz et pétroles de schiste. Mais par contre, ce n'est pas du tout lui qui a inventé la fracturation.
Alors souvent, les capitalistes promoteurs ne sont pas les inventeurs, découvreurs.
Absolument.
Les uns et les autres sont nécessaires.
Voilà. Mais ce qu'il y a comme différence, c'est que dans le pétrole qu'on appelle conventionnel, et puis on ne va pas faire la différence pour l'instant, mais on exploite généralement sans fracturation hydraulique, le pétrole sort naturellement, il n'y a pas besoin de fracturer, alors qu'avec les gisements de pétrole de schiste qui sont très peu perméables, là on est obligé de fracturer, et c'est même la combinaison du puits horizontal et de la fracturation hydraulique qui a permis de développer ces fameux pétrole et gaz de schiste qui font aujourd'hui l'indépendance énergétique des États-Unis.
Les États-Unis, puisque les États-Unis sont repassés à la première place, si j'ai bien compris.
À la fois sur le gaz et sur le pétrole.
Et voilà.
Ils sont fortement exportateurs de gaz et très légèrement exportateurs de pétrole.
Donc ils sont à la pointe du progrès. Ils n'ont pas eu peur. Ils ont autorisé cette technique couplée à la technique du forage, si j'ai bien lu.
Horizontal.
Absolument.
C'est même multifracturation hydraulique. On fait un forage horizontal qui peut mesurer jusqu'à 2000 mètres, le forage horizontal. Puis on fait toute une série de fractures qui permettent de valoriser ce fameux pétrole de schiste qui ne pourrait pas être valorisé sans ces techniques.
Voilà. Mais alors, donc, les États-Unis, ça a été bénéfique pour eux. Certains pays européens ont commencé à suivre cette voie en autorisant la fracturation. C'est le cas de l'Allemagne et c'est le cas de la Pologne. Mais nous, la France, j'allais dire comme d'habitude, excusez du peu, mais la France, on n'est pas vide en ressources de cette nature, puisqu'on a en Seine-et-Marne de très importantes possibilités et des ressources de gaz de schiste.
Non, de pétrole. Le gaz de schiste, c'est plus dans les Cévennes.
D'accord. Mais, enfin, en tout cas, on en a dans différents endroits. Mais malheureusement, la superstition écologiste et le sinistre François Hollande ont interdit, non seulement interdit cette technique, mais ont interdit même la recherche.
Alors c'est interdit tout à fait, mais la loi qui est interdite n'a pas été votée sous François Hollande, mais sous François Fillon. Ça s'appelle d'ailleurs la loi Jacob, du nom Christian Jacob. Et donc elle a été effectivement votée non pas par Hollande, mais sous le gouvernement Fillon à la fin du mandat de Sarkozy.
Mais ensuite, après la fin du mandat de Sarkozy, quand il y a eu François Hollande, c'est lui qui a fait cette déclaration « Sous ma présidence, il n'y aura jamais
d'exploration de gaz de schiste ». Donc, c'est-à-dire qu'on est... Parce que la fracturation hydraulique ne permet pas d'exploiter. Mais par contre, elle permet au moins d'aller regarder pour voir s'il y en a ou s'il n'y en a pas. Parce qu'aujourd'hui, quand vous dites on a d'énormes réserves, ça, ce n'est pas prouvé. La géologie est plutôt favorable.
Ah oui,
mais
on
tant
est pas
qu'on
n'a
pas foré, on n'en est pas sûr. Oui, mais... donc, on
ben, il
pas,
faudrait savoir,
peut
justement.
Pas affirmer. Mais donc, c'est dommage de ne pas aller regarder, de ne pas aller regarder pour savoir. Mais la loi Jacob a été doublée par une autre loi qui, elle, interdit tout nouveau développement et toute nouvelle production. C'est la loi Hulot qui a été votée en 2018 sous le premier mandat d'Emmanuel Macron.
Et alors, est-ce que vous ne trouvez pas que c'est une position archaïque
et
obscurantiste?
Si. Moi, je...
Là, quand on pense que la France a fait un tas de découvertes scientifiques au XIXe siècle, et aujourd'hui, on ferme la porte, on tourne le dos à tout progrès. Enfin, moi, c'est comme ça que
je milite pour l'abrogation de ces deux lois, la loi Jacob et de la loi Hulot, pour au moins essayer de regarder. Parce que ça ne changera rien. C'est-à-dire qu'on ne va pas consommer plus de pétrole. Ce qu'on fera, c'est qu'on en importera un petit peu
exactement.
Moins. Et peut-être
des États-Unis.
Des États-Unis ou du Moyen-Orient. On importera un peu moins de gaz, possiblement, enfin plus de Russie, mais des États-Unis, et on le produira nous-mêmes, ce qui baissera fortement. Il faut quand même savoir que 80% du déficit de la balance commerciale, c'est le gaz et le pétrole.
Exactement. Donc c'est quand même désolant de
c'est
voir
désolant,
ce retard
absolument.
De la France. Pourquoi la France choisit-elle toujours les mauvaises solutions? Enfin, en ce moment, pas...
Ah, bah, disons qu'il y a toujours eu beaucoup d'idéologie derrière, donc c'est-à-dire
oui, c'est,
que...
Oui, c'est le souci d'avoir les voies écologistes.
La fracturation hydraulique a été honnie par la gauche, la droite s'est laissée faire. On a toujours dit que la fracturation hydraulique, alors vous savez, comme théorie du complot, on a été jusque dire que la fracturation hydraulique rendait les femmes stériles et faisait que les vaches perdaient les poils de leur queue, hein, pour vous dire jusqu'où ça a été aux États-Unis. Il faut savoir qu'aux États-Unis, il y a un État où la fracturation hydraulique est interdite, c'est l'État de New York.
Ah oui.
Voilà, parce qu'on a en fait, il y a un très gros gisement qui s'appelle le Marcellus, c'est le nom du gisement, qui est à cheval sur la Pennsylvanie et l'État de New York. Et la fracturation hydraulique étant interdite dans l'État de New York, l'État de New York n'a jamais pu valoriser. C'est uniquement la Pennsylvanie qui le permet. Vous savez que les États-Unis est un pays très fédéral où les lois peuvent différer.
Donc c'est New York,
État
c'est interdit à New York comme par hasard, un État hyper démocrate et à fond anti-Trump. C'est
ça. Oui, mais car... ça l'était bien avant.
Bien avant. Oui. Alors, j'aimerais qu'on parle aussi un petit peu, pour éclairer les auditeurs, des raffineries. Parce que le pétrole, c'est une chose, mais le pétrole, ça donne des produits après raffinage. Hein, le pétrole est distillé.
Distillé. Comme
pardon.
Le whisky.
Oui, c'est ça.
Exactement le même procédé.
En divers produits, donc diesel pour les camions et les trains, kérosène pour les avions.
Kérosène.
Oui.
Pas gène, hein, kérosène.
Kérosène, oui. Produits pétrochimiques pour l'industrie plastique, asphalte pour les routes,
absolument.
Cire et huile pour l'électroménager. Enfin, donc, ça donne énormément de possibilités. Alors, parlez un peu aux auditeurs de ces processus de distillation qui sont fondamentaux.
Alors, la distillation, c'est ce qu'on appelle une coupe de distillation. Donc, c'est-à-dire que quand le pétrole est un mélange de différents composants qui ont des poids chimiques différents. Et donc, à partir du moment où vous les chauffez, il y en a qui se vaporisent plutôt que d'autres. Donc, il y en a qui restent liquides et d'autres qui se vaporisent. Donc, les premiers qui se vaporisent sont généralement les plus légers. Donc, on va les vaporiser et les garder. C'est comme ça qu'on va séparer le pétrole brut de différents composants, des plus légers aux plus lourds. Et donc, les plus légers, ça sera l'essence, voire même le gaz. Mais le gaz, c'est un peu à part. On va dire simplement le liquide.
Oui.
Donc, ça va être l'essence. Et le plus lourd, c'est ce que vous dites, ça va être le bitume qui est du pétrole très lourd. Mais la composition chimique est la même. C'est toujours... Alors, hydrocarbure,
oui.
Généralement, quand je pose la question aux étudiants, que signifie hydro dans hydrocarbure, tout le monde va répondre c'est l'eau.
C'est l'eau.
Qu'en réalité, c'est hydrogène plus carbone.
Ah,
donc, l'hydrocarbure est un mélange d'hydrogène et de carbone. Plus il y a d'hydrogène et moins il y a de carbone, plus c'est léger. Et plus il y a de carbone et moins il y a d'hydrogène, plus c'est lourd. Donc le bitume va avoir beaucoup plus de carbone et moins d'hydrogène, et l'essence beaucoup plus d'hydrogène et moins de carbone. Oui.
Et alors, la distillation, si j'ai bien compris, se fait, explique Ed Conway dans son livre, dans différentes raffineries. Mais il y a peu de raffineries qui arrivent à distiller tout pour faire tous les produits.
Oui, il y en a qui sont plus spécialisés dans le diesel, plus qui sont spécialisés dans l'essence. Et c'est ce qu'on observe d'ailleurs aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire que globalement, l'Europe a fortement baissé ses capacités de raffinage concernant le diesel. Donc le diesel, parce que ça coûtait plus cher, et donc le diesel est aujourd'hui majoritairement importé. Oui. Et c'est pour ça que le marché du diesel en Europe est très tendu. Oui. Et qu'aujourd'hui, le prix du diesel, qui était bien plus bas que le prix de l'essence, est aujourd'hui plus élevé que le prix de l'essence.
Sauf, il y a une exception, si j'ai bien compris, c'est la raffinerie de Wesseling en Allemagne, qui serait capable de distiller toutes sortes de...
Oui, alors...
Il paraît que les Américains, ce qui est quand même étonnant à l'époque assez protectionniste de Trump, sont obligés, faute de raffinerie ayant les capacités de Wesseling en Allemagne, sont d'envoyer en Allemagne leurs produits pétroliers pour qu'ils soient raffinés dans toutes sortes de sous-produits.
Mais ça, c'est assez général. Hein. Le produit producteur de pétrole n'est pas nécessairement le raffineur. D'ailleurs, on a en France des raffineries où on importe du pétrole brut et où on le
transforme
en échange, distille et on le raffine. C'est distiller, ça veut dire.
Mais ces raffineries sont spécialisées, si j'ai bien compris.
Sont plutôt spécialisées et on en a informé.
Ce n'est pas le cas de Wesseling.
On en a fermé un certain nombre, notamment celle de Lamet. Hein, à l'étang de Berre, qui était transformée en une raffinerie, cette fois-ci pour des huiles végétales, et non plus pour des huiles fossiles.
Oui, très bien. Et donc, vous avez aussi des sous-produits qu'on ignore ça, enfin moi je l'ignorais, tels que les engrais, les médicaments, les plastiques, qui sont, peuvent être obtenus à partir du pétrole.
Alors, c'est un peu différent. Donc, pour les plastiques, oui. Hein. Les plastiques, c'est ce qu'on appelle du polyéthylène.
Ah oui, le
polyéthylène. Et le polyéthylène n'est que l'association de molécules d'éthylène qui elles-mêmes proviennent soit du gaz, soit du pétrole. Donc, c'est-à-dire que tous les plastiques sont fabriqués à partir d'hydrocarbures et surtout à partir de naphtha, c'est-à-dire de pétrole assez léger. Il y avait d'ailleurs, il faudrait le retrouver sur Internet, un film qui dure 2-3 minutes où c'est quelqu'un qui est en train de regarder la télé. Et puis on va progressivement, il va faire un tas de gestes journaliers, on va progressivement le priver du pétrole et de tout produit fabriqué à partir du pétrole. Et il va se retrouver pratiquement en slip sur le trottoir. Donc, c'est-à-dire qu'il va vouloir prendre son verre en plastique, on va lui retirer. Sa bouteille en plastique avec l'eau, on l'a retirée. Il regarde la télé, l'écran va disparaître parce que c'est du plastique. La moquette va s'enrouler parce qu'elle est faite à partir de matière plastique.
Très bonne pédagogie.
Les peintures vont disparaître parce qu'elles sont faites à partir de matière plastique. Et finalement, il va arriver sur la rue et il se retrouve en slip parce que sa chemise a été...
Il est fabriqué à partir du pétrole, donc tout nu, pas en slip.
Et j'avais d'ailleurs écrit un article durant le premier confinement en expliquant dire merci au pétrole parce que les masques et toutes les tenues du personnel médical sont fabriquées à partir de matières plastiques, elles-mêmes fabriquées à partir de pétrole.
Ben je vous remercie, Philippe Charlès, d'avoir... pédagogiquement, cet exemple, démontrer aux auditeurs beaucoup mieux que je ne l'ai fait au début, l'utilité du pétrole.
Ah oui, oui.
S'il se retrouve tout nu...
On est dans un monde... D'ailleurs, le titre du film, vous ne pouvez pas savoir combien nous sommes dépendants du pétrole.
Et alors, ce film, vous l'avez vu, vous, à quelle occasion?
C'est un film qu'on peut trouver sur Internet, il faudrait chercher.
Oui, très bien.
Non, mais c'est un film, ça dure 2 minutes. Hein, c'est très court.
Mais alors, justement, on peut donner des exemples encore plus... symptomatique. La tomate, par exemple, est le résultat des énergies fossiles. Ai-je lu dans ce livre, Matière vitale, il y a des atomes de carbone et d'hydrogène qui sont prélevés sur des molécules de méthane pour faire la tomate.
Ah oui, alors là,
vous êtes sceptique.
Non, je ne suis pas sceptique, mais je découvre. Je vais vous donner mon joker parce que censé non plus
alors,
tout savoir sur
écoutez,
tout.
Écoutez, page 380.
Ok, mais...
Alors voilà, je vous le lis. Hein. Prenons l'exemple d'une tomate. Comme elle est belle et rouge, parfaitement mûre, subtilement appétissante, bon, je passe la description. Bon, eh bien, c'est gênant, car cette sensuelle dégustation est le produit des énergies fossiles. Ces sucres et ces arômes sont composés d'atomes de carbone et d'hydrogène prélevés sur des molécules de méthane, un gaz naturel, lui-même directement prélevé dans le sol par une entreprise pétrolière. Il en va de même, dit l'auteur, pour n'importe quel concombre, aubergine, pêche,
oui,
ou
alors, c'est,
là,
oui, là, on sent que c'est quelqu'un qui ne connaît pas la chimie, par contre.
Ah, donc, oui. C'est-à-dire il est économiste, oui.
Voilà. Donc, non. Alors, ce qui est vrai, c'est qu'on ne peut pas dire que la tomate a été fabriquée à partir du pétrole. Mais la tomate contient des sucres. Et les sucres sont faits,
ah oui,
s'appellent,
ah ben
les hydrates de carbone, donc hydrogène, oui, encore une fois, et,
oui,
et carbone.
C'est un peu ça qui veut
dire. Donc c'est un peu ça qui veut dire. Ben, il faut savoir que toute plante absorbe de l'eau, absorbe du CO2 et de la lumière du soleil pour faire ce qu'on appelle sa photosynthèse. Vous,
oui,
mélangez l'eau H2O avec du CO2,
oui,
et vous avez des hydrates de carbone. Donc, c'est-à-dire, l'alcool est aussi un hydrate de carbone.
Oui.
Donc, c'est-à-dire que c'est une chimie qui est très proche de celle des hydrocarbures. Mais là, vous m'aviez laissé entendre que la tomate était fabriquée à partir d'hydrocarbures.
Je suis peut-être mal exprimé.
Non, mais c'est, oui, lui qui, quand vous,
oui,
lisez, on sent. Mais disons que c'est vrai que le sucre est une molécule qui est très proche de la molécule d'hydrocarbures légère.
Oui.
Et l'alcool aussi.
Oui. Et alors, cet économiste Conway, qui n'est pas chimiste, explique alors que justement la tomate, maintenant, de plus en plus, pousse dans des serres. Il paraît que le Pays-Bas est devenu le deuxième exportateur mondial de nourriture, ce qui est quand même étonnant. Et on voit que l'agriculture moderne remplace l'énergie naturelle par de l'énergie artificielle, dit-il. Et il dit ceci, sans gaz naturel, pas d'engrais. Sans engrais, impossible de produire la nourriture nécessaire à 8 milliards d'habitants.
Alors, là encore, il faut bien comprendre, les engrais ne sont pas fabriqués à partir d'hydrocarbures. Les engrais, généralement, c'est d'ailleurs ce qu'on appelle les engrais azotés, sont fabriqués à partir d'azote, c'est-à-dire à partir d'ammoniac, puisque l'ammoniac est l'association,
ah oui,
d'azote et d'hydrogène.
Mmh.
Et en fait, l'hydrogène aujourd'hui est produit à partir de gaz naturel. Donc, c'est-à-dire que c'est effectivement une chaîne où l'hydrocarbure est à la base, est un produit de base, un produit de base de la fabrication des engrais azotés. C'est d'ailleurs pour ça qu'au Qatar, c'est un énorme producteur d'engrais, parce que c'est un gros producteur de gaz, et l'engrais est synthétisé à partir d'ammoniac, qui lui-même est fabriqué à partir d'hydrogène, qui lui-même est produit à partir de gaz naturel.
Oui, donc c'est fou ce que le génie humain a pu...
Le génie humain ne fait que reproduire des phénomènes naturels.
C'est ça.
Mais enfin, son génie, c'est de les avoir compris et assimilés pour arriver à les reproduire, mais il ne les a pas pour autant inventés.
Alors, le livre dit quand même que, bon, la plupart du temps, les matériaux sont adaptés à partir de matériaux qui existent, en les brûlant, en les taillant, en les frappant, en les moulant, mais il dit qu'on a la possibilité maintenant de créer un matériau. Exemple, dit-il, l'auteur, le celluloïde qui remplace l'ivoire des éléphants d'Afrique.
Oui.
Merci, peuvent dire les éléphants. Ou les gaines de polyéthylène, vous avez parlé tout à l'heure, qui remplacent les arbres à caoutchouc.
Oui, oui.
Bah donc, on peut créer quand même.
Oui, oui. Bah je vais dire ce qu'on appelle aujourd'hui les polymères. Donc, les polymères, c'est quoi? Ben, ça veut dire que c'est des molécules. On soude en fait des molécules d'hydrocarbures simples qui s'appellent des monomères. On va les souder sous forme de chaînes très longues et ça va donner quelque chose qui est assez proche du caoutchouc naturel.
Eh oui.
Et donc, c'est du caoutchouc synthétique qu'on fabrique aujourd'hui. Et effectivement, par exemple, les grandes canalisations... grise qu'on peut voir, soit canalisation souterraine, soit même les tubes de plomberie que vous avez chez vous et qu'on peut acheter
Oui.
au Conforama, au Castorama plutôt
Oui.
local. On peut pas faire de publicité,
Oh,
excusez-moi.
si, on peut.
Vient, c'est effectivement toujours fabriqué à partir de plastique et donc de gaz ou de pétrole.
Oui. Mais malgré tout cela, malgré toutes les bienfaits de ces découvertes et de ces mises au point agricoles, la superstition écologiste continue de critiquer ce qu'ils appellent l'agriculture productiviste. Alors moi, je dirais, moi personnellement, je suis un défenseur de l'agriculture productiviste, je ne sais pas vous, Philippe Charlèze, mais je pense que sans cette agriculture, ça serait la famine dans beaucoup de pays,
Voilà.
non?
Alors ben moi je ne suis pas un défenseur du productivisme pour le productivisme. Moi je suis un ardent défenseur et protecteur de ce que j'appelle le développement humain. Et je
Oui.
considère que le développement humain sans croissance économique, sans, comme vous dites, productivisme, malheureusement, si on se contente de
8
nourrir
milliards
8
d'êtres
milliards d'êtres
humains,
humains avec l'agriculture biologique, ça risque d'avoir un effet de baisse de la démographie assez marquant.
oui,
Voilà. Donc, c'est peut-être pas le but. Donc, effectivement, quand on dit on veut pas de productivisme, ben, malheureusement, pour nourrir 8 milliards, voire bientôt 10 milliards d'êtres humains, on est bien obligé d'avoir de l'agriculture intensive. Et cette agriculture intensive, ben, elle est basée, sur un certain nombre de produits. Et donc, je crois que. Même si on peut entendre que certains pesticides, bien que ça soit encore à démontrer, parce que les quantités qu'on retrouve dans les aliments sont
Oui.
bien en dessous des normes acceptables. Ce que je veux dire, que ça maintient en vie beaucoup plus de personnes que le fait de ne pas le faire générerait des famines qui les tueraient.
Exactement, exactement.
Voilà,
Il faut quand même
donc
rappeler
là, il
ce.
faut
Maintenant, il est vrai que les
simplement rappeler.
écologistes vous diront, ah, mais il y a trop d'êtres humains, il faut ne plus faire d'enfants et il faut que petit à petit l'humanité s'éteigne.
Alors,
Enfin, les extrémistes, disons, vous direz ça.
je veux dire, je vais le mettre sur l'internet pour y répondre. Est-ce que notre planète est faite pour 8 milliards d'habitants, ou 10 milliards d'habitants? C'est un débat qui est intéressant. Donc, c'est-à-dire, vous construisez une maison pour 5 personnes et vous en mettez 15 dedans, ça devient plus compliqué de vivre. Donc, c'est aussi un petit peu le cas. Donc, est-ce que.
C'est précisé, c'est peut-être ça qui pousse au génie innovateur
Alors,
et
certes,
créatif humain.
alors ce qu'on va vous dire, c'est que le génie innovateur a aussi ses limites. Mais il y a un résultat de cause à effet.
Oui.
C'est-à-dire que, je vais dire, le développement humain est générateur de démographie, puisque ça augmente l'espérance de vie.
Exactement.
Et
Ouais.
donc, ça veut dire que tout ça finira par s'autoréguler, parce que la nature est quand même la plus forte.
Voilà, ben, espérons que vous ayez raison. Alors effectivement, tous ces produits agricoles, tous ces produits des matières premières, il y en a beaucoup. Je prends l'exemple du plastique. Si j'ai bien compris le livre d'Ed Conway, il explique que le plastique est un très bon isolant électrique, mais que ça a aussi donné les technologies radars. C'est vrai, ça, je m'en étonnais.
Oui, alors des plastiques, il y en a un peu partout, hein. Mais donc c'est vrai que c'est un isolant, ça c'est vrai. Donc
Oui.
ça ne conduit pas l'électricité. C'est bien pour ça d'ailleurs que les gaines de câbles électriques sont faites en plastique.
Oui.
Avant c'était en caoutchouc, puisque
Oui,
on avait du
c'est
caoutchouc
ça.
naturel, voilà. Et aujourd'hui c'est fait en plastique parce que c'est pas conducteur. Vous avez du cuivre, on va en parler, du cuivre à l'intérieur qui est conducteur. Et pour isoler et canaliser l'électricité, quand vous prenez un câble que vous ne n'ayez pas, comment, ne vous électrocutiez pas, on enrobe d'une gaine de plastique qui, elle, est parfaitement non conductrice de par, de nouveau, sa composition chimique.
Et la technologie du radar, ça a été fondamental pour les navires. Moi, je
Ah
m'occupe, vous
oui,
savez, un peu
absolument, absolument.
de maritime. Et grâce à ça, on évite les accidents, les collisions, on a une meilleure vue, des choses.
Absolument. Je connais mal la technologie du radar, donc je ne m'appesantirai pas sur
Oui,
le
oui,
là-dessus.
oui. Alors, puisque je parle de navires, j'évoque ce qui est évoqué dans le livre de Conway, les navires VLCC. Hein, je crois que ça veut dire Very Large Crude Carrier. Et ce sont des bateaux citernes qui alimentent la Chine ou l'Inde, mais qui alimentent parfois aussi un peu l'Europe en pétrole. Et ils doivent alors passer par le canal de Suez. Et alors, j'ai lu ça dans le livre, je l'ai découvert dans le livre, Matière vitale, de Ed Conway. Comme ils transportent trop de produits, ils sont profondément immergés pour franchir le canal de Suez, et donc ils doivent décharger une partie de leur pétrole dans les tuyaux du port de Aïn Soukna, okay. Arabie, et la récupérer en Méditerranée. J'aurais pas pensé que...
Non, mais ça, aussi... j'ignorais.
Oui, ben nous le découvrons tous les deux. Sauf qu'il faut dire aujourd'hui que ce port de Aïn Soukna en Arabie Saoudite, qui permet de transbahuter une partie du pétrole, il est à portée de missiles de l'Iran. C'est une situation un peu délicate.
Effectivement.
Oui. Bon, on a beaucoup parlé du pétrole.
Oui, il faudrait passer aux autres matières premières.
Voilà, on ne pourra pas tout faire, mais on pourrait passer, par exemple, au sable. Comme le pétrole donne tous les produits dont nous avons parlé, eh bien, le sable, ça donne aussi le béton, si j'ai bien compris, le verre et le silicium.
Alors, ça ne donne pas, disons, le sable est du silicium.
Oui. Voilà.
Donc, le silicium est un élément du tableau de Mendeleïev au même titre que l'hydrogène, le carbone, le cuivre, le fer.
Oui.
Et c'est un élément qui est sous forme d'une roche, qui cristallise sous forme d'une roche, qui s'appelle le quartz. Donc, le quartz, c'est de la silice, et la silice, c'est du silicium. Et le sable est en fait du quartz qui est dégradé, si j'ose dire. Donc, c'est-à-dire que globalement, l'effet de l'érosion va transformer le quartz. Le quartz, il provient du magma en fusion. Le magma en fusion va se refroidir et contient du silicium et donc contient du quartz. Et donc, d'ailleurs, la croûte terrestre, je ne sais pas si vous savez, ça s'appelle le sial.
Ah non, ça je ne sais pas.
Et si, c'est silicium, et al, c'est aluminium.
Ah, oui,
donc
d'accord.
Ça veut dire que c'est comme ça. Alors qu'au contraire, alors qu'au contraire, la partie inférieure à la croûte, qu'on appelle aussi le manteau, ça c'est assez connu, s'appelle le sima, ça veut dire silicium et magnésium. Donc c'est-à-dire que vous allez avoir davantage d'aluminium dans l'écorce et davantage de magnésium dans le manteau. Bon, mais ça nous éloigne un petit peu. Mais donc, le silicium est un élément qui est assez abondant sur Terre et qui a des propriétés qui sont assez intéressantes. Et notamment, l'une des grandes propriétés du silicium, donc du quartz, c'est que c'est un élément très dur. C'est l'élément... Alors, il n'est pas aussi dur que le diamant, mais il est pratiquement... Bon, vous savez qu'on a une échelle de dureté qui va de 1 à 10.
Ah oui, expliquez ça, oui.
On a une échelle de dureté qui va de 1 à 10. Et donc, le diamant, c'est 10. Et par contre, le silicium, donc le sable, c'est presque 8. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose qui est très dur. C'est plus dur que l'acier, le silicium.
C'est d'ailleurs étonnant de penser que le sable si fin de nos plages peut donner des tours... immobilière, massive et solide avec
oui.
Le ciment,
alors,
du béton.
Il faut l'associer au ciment. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand vous faites de la géologie et que vous vous promenez sur le terrain, comment reconnaître une roche qui contient beaucoup de silice, beaucoup de sable, qu'on appelle un grès d'ailleurs, ça s'appelle un grès.
Ah oui, grès, oui.
Eh bien, tout simplement parce que l'outil maître du géologue, c'est le marteau.
Oui.
Et le marteau, il est fabriqué en acier.
Oui.
Et la silice, elle est plus dure que l'acier. Qu'est-ce qu'on fait ? On frotte le bout de grès, le bout de sable sur le marteau, et s'il raye le marteau, c'est que c'est de la silice.
Ah oui.
Alors ça pourrait être du diamant.
Oui.
Généralement, quand vous ramassez une roche par terre, un gros morceau de roche, j'ai jamais eu la chance de ramasser un gros morceau de diamant, malheureusement.
Oui. Alors,
c'est un moyen. Donc, la silice est une roche extrêmement dure.
D'accord. Alors donc, l'écrivain enfin, qui a fait le livre dont nous parlons, il souligne une chose intéressante, c'est que ça a permis, le béton notamment, le béton qui est fait à partir du ciment, qui lui-même est fait à partir du sable, si j'ai bien compris.
Permet... Ah non, le ciment n'est pas fait à partir de sable. Non, 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 le ciment, c'est fait à partir de la craie, à partir du carbonate de calcium. Il n'y a pas de sable dans D'accord. le ciment. En D'accord. fait, quand on fait du mortier,
oui.
le ciment tout seul, quand on le consolide, il est cassant.
Oui.
D'accord. Et donc, pour qu'il ne soit pas cassant et vraiment faire un alliage, on va mélanger du sable avec du ciment. C'est ce qu'on appelle du mortier. Et oui. si, au lieu de sable, vous mettez un granulat, alors ça devient du béton.
D'accord. Mais en tout cas, ce béton... Ça permet d'isoler les habitations.
Ah, ça permet d'isoler et de construire, surtout.
Voilà, et de construire. Et donc, il donne cet exemple d'un sol en dur des maisons mexicaines, plutôt qu'un sol en terre, qui ont donné comme résultat que les infections causées par les parasites intestinaux ont chuté de 78% au Mexique. Moins d'enfants malades, moins d'anémie, moins de diarrhée. Les enfants à l'école améliorent leur travail parce qu'ils sont en meilleure santé. Donc ça, c'est aussi un apport important du béton.
Oui, oui. Mais ça, d'une façon générale, de la construction en dur par rapport à une construction en terre, en paille, en bois, etc.
Oui.
Donc, c'est-à-dire que vous avez effectivement d'un côté le côté de la dureté, oui. et puis surtout, c'est que le béton est imperméable aux bactéries, alors que quand vous avez un sol de terre, ce ne sont que des bactéries.
Que des bactéries, exactement.
Voilà, donc oui, effectivement, on n'y pense pas, mais c'est un fait accompli.
Oui, parce qu'on prend tous ces produits comme des acquis, mais en réalité, ils nous sauvent la vie, quoi. Procure des avantages dont nous n'avons plus conscience.
Absolument.
Alors, on pourrait peut-être parler aussi du verre.
Oui, alors le verre, donc, c'est aussi de la... Ça n'est que de la silice fondue. Alors,
excusez-moi. Continuez, on a été interrompu là par...
Alors, donc, le verre, mais c'est une... Le verre est une très vieille invention, hein. Donc en fait, c'est de la silice. Alors elle peut être mélangée à certains produits, par exemple pour colorer. Hein. Oui. Vous savez que, je ne sais pas si vous connaissez la verrerie de Biote dans le sud de la France. Donc qui est, alors la verrerie de Biote est située là entre Cannes et Nice à peu près. Et donc elle est célèbre par la coloration du verre. Et en fait, à la silice, vous mélangez autre chose. Ça peut même aller jusqu'à des petites quantités d'uranium. L'uranium, qui est célèbre pour nos centrales nucléaires,
oui.
A été utilisé dans certaines applications, plus tellement aujourd'hui, mais avant, pour colorer le verre. C'était une des premières applications de l'uranium, ça a été de colorer le verre. Mais alors, on pourrait peut-être parler... Donc, le verre est, disons, une application... classique et ancienne du silicium.
Oui.
Mais par contre, l'application moderne du silicium, c'est quand même le numérique. Tout le numérique est basé sur le silicium.
Alors peut-être, avant d'arriver à ce point, rappelons que dans les siècles passés, les verriers qui produisaient le verre à Murano, à côté de Venise, oui. étaient interdits sous peine de mort de quitter leur île.
Oui, j'ai lu ça, effectivement. Ah oui, parce que les procédés des verriers que je ne connais pas en détail, oui, ce sont des secrets de fabrication qui sont extrêmement bien gardés, puisque oui. c'est un argument commercial absolument exceptionnel de comme la céramique, hein, d'ailleurs.
Oui.
Palissy, bien connu, oui. céramiste bien connu, avait brûlé tous ses meubles pour arriver à trouver la bonne formule équivalente au céramiste italien.
C'est ça. Mais le verre, ça a été quand même fondamental, parce que sans verre, il n'y aurait pas eu de lunettes et il n'y aurait pas eu les découvertes de Galilée, la possibilité de lire, l'imprimerie, etc., etc. Et alors, effectivement, on arrive aujourd'hui à la fibre optique qui permet... voilà, c'est grâce à la fibre optique que nous avons les emails.
Qui n'est que du silicium. Oui. Et en fait, la fibre optique, comme son nom l'indique, est basée sur la transmission de l'information sous forme d'un faisceau de lumière.
Oui.
Et le verre étant transparent, laisse passer la lumière. Alors bon, c'est un verre assez particulier qui laisse passer la lumière sur des milliers de kilomètres et donc qui transforme l'information sans la détériorer, oui, sans l'affecter sur des milliers de kilomètres. Mais en fait, la transparence du verre, d'une vitre, je veux dire, on l'imagine bien sur un fil plus fin qu'un cheveu qui va laisser traverser la lumière, cette lumière elle-même étant porteuse d'informations.
C'est ça. C'est quand même extraordinaire de voir ça. Alors, il y a une anecdote réelle, historique, qui s'est passée au cours de la guerre de 14-18 que donne Ed Conway. C'est que les Allemands et les Anglais étaient adversaires et pourtant, les Anglais avaient absolument besoin de jumelles. Et les jumelles, elles étaient produites par les Allemands. Et donc, il a été question à un moment que les Allemands vendent des jumelles aux Anglais, jumelles qui seraient nécessaires pour se tuer. Mais s'ils l'ont fait, explique l'auteur, c'est parce que, de leur côté, les Allemands avaient un urgent besoin de caoutchouc. Et donc, l'idée était que les Anglais vendaient... les Allemands vendaient des jumelles aux Anglais si, en échange, ils vendaient les Anglais vendaient le caoutchouc pour les pneus aux Allemands.
Ah bon.
Ça ne s'est pas fait, finalement, mais ça a failli se faire. Bon, finalement, les Anglais se sont approvisionnés auprès des Américains pour le caoutchouc. Mais vous voyez que malgré la guerre... ces produits sont parfois d'une importance vitale. Et ça explique pourquoi. Alors, on pourrait peut-être aussi dire un mot maintenant des semi-conducteurs. Car les semi-conducteurs, est-ce que vous pouvez développer un peu là-dessus?
Oui, comme son nom l'indique, vous avez d'un côté des métaux qui sont conducteurs.
Oui.
Donc, le plus célèbre, c'est le cuivre. Donc ça veut dire quoi? Chimiquement, ça veut dire que c'est un atome duquel un électron s'échappe facilement, puisque l'électricité n'est qu'un courant d'électrons entre deux atomes, un flux d'électrons entre deux atomes. Et donc pour que ça soit conducteur, il faut qu'un électron puisse s'échapper facilement d'un atome pour aller vers un autre atome. Et donc, ça a une structure particulière. Et le cuivre et l'aluminium aussi sont d'excellents conducteurs d'électricité. Et puis, vous avez, on l'a dit, des isolants. Là, les isolants, ça veut dire quoi? Ce sont des matériaux où l'électron est complètement bloqué à l'intérieur de l'atome. Il ne peut donc pas s'échanger avec un atome proche. Et donc, ça veut dire que ça ne conduit pas l'électricité. Vous pouvez le prendre en main, puisque c'est le flux d'électrons qui fait l'électricité. Et puis, vous avez les semi-conducteurs. C'est entre les deux, on va dire. C'est-à-dire que l'électron est bloqué, mais on le débloque assez facilement. Et ces semi-conducteurs, on ne va pas expliquer le détail, mais sont à la base de l'invention magique de 1947, qui est un saut absolument...
Le transistor, vous voulez dire?
Qui est le transistor.
Absolument.
Donc, c'est-à-dire que on dit souvent qu'Internet est un breakthrough technologique, une percée technologique,
oui,
alors qu'en réalité, la vraie percée technologique, c'est l'invention du transistor. S'il n'y avait pas de transistor aujourd'hui, il n'y aurait pas d'ordinateur, il n'y aurait pas de téléphone portable.
Alors, expliquez exactement, parce que quand on dit transistor, oui, tout le monde pense au petit poste de radio
qu'on a sur la plage.
Alors,
le transistor, c'est un interrupteur électronique. Donc, c'est-à-dire que... un interrupteur électronique qu'on arrive à contrôler avec un courant électrique qui s'ouvre et qui se ferme extrêmement facilement.
C'est ça.
Donc c'est un peu comme si vous alliez à l'interrupteur que vous ouviez ou vous fermiez.
Oui,
C'est comme ça que marche un ordinateur. Et ça a été le génie du dénommé John Barden, qui était un Américain
John Barden.
En 1947, et qui a inventé le transistor. Et le transistor est fabriqué à base de silicium. Alors au début, son transistor, quand il l'a inventé, était un peu grand. Et aujourd'hui, on a miniaturisé tout ça. Et donc, dans un microprocesseur, il y a des millions, voire des milliards de transistors qui s'ouvrent et qui se ferment. Et plus c'est miniaturisé, je vais y arriver. Le mot était un petit peu compliqué. Plus c'est miniaturisé, je vais y arriver. Plus on arrive à des ordinateurs performants. Et donc le silicium, mais c'est du silicium, il faut qu'il soit extrêmement pur. Donc c'est du quartz, du sable qui est extrêmement, extrêmement pur. Tous les sables ne peuvent pas faire du silicium adapté à fabriquer des transistors et des microprocesseurs. Mais tout ça a créé donc ce qu'on a appelé l'informatique, le numérique, aujourd'hui Internet et l'intelligence artificielle. Tout ça ne pourrait exister sans l'invention du transistor et sans le silicium.
Et alors, est-ce qu'on utilise des transistors pour, par exemple, dans une voiture, ouvrir une vitre ou mettre pour le moteur ou pour
tout ce qui
le
est,
son,
tout ce
tout
qui
ça,
est,
des transistors.
Tout ce qui est automatisme est aussi à base de transistors. Alors, il n'y a pas que des transistors, il y a aussi des résistances, des capacités, des condensateurs, tout ça dans des circuits intégrés en miniature.
Oui.
Mais le transistor joue un rôle essentiel dans tout ça. Et encore une fois, il y a comme ça la vraie percée technologique. Vous avez des percées technologiques et puis des évolutions qu'on appelle incrémentales. Mais je dirais que le transistor est vraiment la percée technologique. Internet est l'évolution incrémentale.
Ah oui, d'accord. Oui, oui. Alors, on dit que les semi-conducteurs sont beaucoup produits par Taïwan.
Oui, oui, c'est le plus gros producteur de semi-conducteurs au monde. Oui.
Alors, est-ce qu'on ne peut pas en déduire que les États-Unis ne peuvent se permettre de laisser tomber Taïwan aux mains de la Chine ?
C'est embêtant.
Parce que si la Chine est seule en possession de Taïwan, ils peuvent mettre la main sur les semi-conducteurs.
Oui, sur les processeurs. Oui, Taïwan est le c'est pas le seul, mais c'est le premier.
Vous savez pas quel pourcentage.
C'est le premier producteur. Non, ça je ne.
En fait,
sortez un petit peu de mon domaine. Mais cela étant, alors la Chine a déjà la main sur tellement de choses que ça ne ferait qu'une chose supplémentaire, parce que la Chine a déjà la main sur 80% des matériaux, directement ou indirectement, je vais dire de la plupart des matériaux dont on parle, et notamment de leur raffinage, parce qu'on ne raffine pas que le pétrole, on raffine aussi les métaux, tout simplement parce qu'on n'extrait pas des métaux, on extrait un minerai qui contient ces métaux. Donc quand vous produisez du fer, par exemple, vous extrayez un minerai qui contient un petit pourcentage de fer. Et donc, il faut concasser et puis il faut raffiner pour en extraire le métal.
C'est ça. Bien. Et nous arrivons vers la fin de notre entretien. Est-ce que vous souhaitez nous donner une conclusion ou ajouter une observation à tout ça ? Parce qu'il y a évidemment beaucoup de choses à dire.
Alors, oui, je vous ai quand même réfléchi à une petite conclusion. D'abord, il ne faut pas perdre de vue que, environnementalement parlant, l'extraction minière, c'est quand même pas
le paradis.
C'est-à-dire que ça consomme beaucoup d'eau, ça entache les paysages, notamment quand ce sont des mines à ciel ouvert. Quand ce sont des mines en profondeur, ça peut créer des dégâts miniers en surface. C'est bien connu dans le nord de la France, dans le sud de la Belgique, où vous avez effectivement des galeries de mines et des effondrements en surface parce que les galeries...
Est-ce qu'on ne peut pas appeler ça un processus de destruction créative de Schumpeter, à la Schumpeter ?
Non, je dirais pas ça.
Ah, jusque-là.
Les dégâts miniers, c'est quand même un... Ça a été un cancer pour un certain nombre de villes où vous aviez quand même des pièces entières qui se fissuraient, etc. Donc on
Oui.
ne peut pas dire que ce soit très positif, même d'un point de vue de la destruction créatrice de Schumpeter. La deuxième chose, c'est quand même d'insister sur le fait qu'il y a même une grosse différence, parce qu'on a parlé de pétrole et puis on a parlé de silicium, on aurait pu parler de cuivre, de fer,
Oui, mais d'ailleurs, le
d'aluminium.
livre que nous évoquons, on parle de
On
tout ça,
parle
c'est maintenant
aussi
une
du
très
lithium,
simple
on
page.
n'a malheureusement pas parlé
Oui.
du lithium. C'est quand même une grosse différence entre les deux, c'est que la matière se recycle et que l'énergie ne se recycle pas.
Ah oui, ça c'est
Donc
important,
ça,
oui.
c'est très important. Donc c'est-à-dire que globalement, on a beaucoup parlé de pétrole. Quand vous prenez un litre de pétrole et que vous le brûlez, il est perdu pour l'éternité. Il va mettre 100 millions d'années à se refabriquer. Alors qu'au contraire, quand vous avez utilisé du fer, vous en perdez un petit peu parce qu'il y a de la rouille, mais une grosse partie est tout à fait réutilisable et recyclable. Et d'ailleurs, aujourd'hui, 40% de l'acier, puisque l'acier n'est que l'association du fer et du carbone, que nous utilisons est de l'acier recyclé. Et pour le cuivre, par exemple, le cuivre se recycle pratiquement, c'est très peu corrosif, donc le cuivre se recycle pratiquement à 100%. Et donc je crois que c'est peut-être le message final que je peux donner aux auditeurs, c'est qu'on a beaucoup vécu sur ce qu'on appelle une économie linéaire, c'est-à-dire que globalement on extrayait le métal, on le raffinait, on l'utilisait, et puis quand il était abîmé, on le jetait. Et qu'en fait, il faut passer à ce qu'on appelle une économie circulaire, qui remet en circuit la partie du métal qu'on peut refondre et réutiliser. Je vous dis, ça se fait déjà beaucoup pour l'acier. Ça se fait aussi pour le cuivre, hein. 30% du cuivre dans le monde est du cuivre recyclé.
Et cette économie circulaire, est-ce qu'elle peut se jouer pour toutes les matières?
Ah oui, elle peut jouer, on peut recycler le plastique, on peut recycler tous les métaux rares qui sont dans nos téléphones, on peut tout à fait les recycler.
Ah oui.
Mais par contre, ça coûte parfois très cher, plus cher de recycler que d'extraire.
Ah
Et
oui.
donc c'est là que l'industrie française, qui ne possède pas énormément de ressources minérales ou qui n'en possède plus, a vraiment un rôle à jouer, c'est-à-dire que le recyclage de toutes ces matières indispensables au développement peut devenir une industrie nationale avec beaucoup de compétences et avec beaucoup je vais dire, de plus-value. Si on veut réindustrialiser, je pense que le recyclage des matières premières est un maillon indispensable de cette réindustrialisation.
Très bien, recyclage des matières premières, un secteur d'avenir peut-être, nous dit Philippe Charlège. Je vous remercie Philippe pour toutes vos observations. Elles étaient parfois assez techniques, mais elles étaient aussi parfois très pédagogiques et je pense que ça aura éclairé les auditeurs.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Radio Courtoisie. Histoire à la loupe.
Marie-Josette Liégeois prit l'habitude lors de ses déplacements à Paris d'aller rendre visite à son amant libanais qui l'attendait avec impatience et enthousiasme. Elle ne venait pas dans sa boutique de la rue du Faubourg du Temple, ni dans l'appartement qui le surplombait, car il ne le jugeait pas assez chic pour la recevoir. Il se donnait rendez-vous à l'hôtel d'Isly, rue Jacob, dans le quartier latin, où il pouvait s'adonner en toute discrétion au scénario savamment concocté par l'ostéopathe. Il lui arrivait aussi de la rejoindre quelques jours l'été à Saint-Tropez, où elle passait de courtes vacances avec une bande d'amis strasbourgeois. Il existait là-bas une plage dite de l'Escalet, avec des cabanes de pêcheurs qu'on pouvait louer pour un jour ou pour une semaine.
Vous écoutez les histoires à la loupe de Radio Courtoisie. Voici Marie-Josette Liégeois, deuxième partie, sur un récit de Patrick Simon. Montage et arrangement sonore, Sandrine Moutier.
Marie-Jo appréciait bien cet endroit car la crique escarpée rendait l'accès difficile. Et cette difficulté permettait de pratiquer le nudisme, encore que ce fût officiellement interdit. Mais c'est justement cette interdiction qui l'excitait. Elle aimait la braver et s'asseoir dessus, et adorait se balader en tenue d'Ève sur cette plage, s'y montrer à tous, afin d'exhiber sa magnifique plastique dont elle n'était pas peu fière. Surtout quand celle-ci était ornée de quelques marques rouges ou traces violacées d'hématomes, pâle vestige de ses nuits torrides. Et après de telles provocations, d'y recruter de nouveaux amants susceptibles d'adopter ses pratiques. Les bleus qu'elle arborait crânement lui servaient même de prétexte à conversation. C'était d'un abordage facile, le garçon l'interrogeait sur le motif de leur présence sur sa peau et elle sortait le poteau rose en désignant le coupable d'un index vengeur.
« C'est lui !»
Mais en donnant une précision curieuse du genre
« Il n'a fait qu'exécuter mes ordres. »
Ou
« Il m'a fait une belle décoration corporelle, vous ne trouvez pas ?»
Ou encore
« J'adore quand c'est bien rouge. »
Et là, de deux choses l'une. Ou bien le gus questionneur repartait intimidé, penaud ou dégoûté. Ou bien ça l'intéressait. Dans ce dernier cas, elle s'attachait à l'attirer dans ses filets pour un approfondissement plus sérieux du dossier. De sorte qu'au bout d'un certain nombre de saisons, la bande s'était étoffée de pas mal d'obsédés ou de gens étranges un peu allumés, garçons ou filles, qui s'étaient greffés sur le noyau initial. Khalil, en frayant avec cette faune que Marie-Jo lui avait présentée, se demandait parfois s'il avait bien fait de poursuivre cette liaison avec celle qu'il dut finalement se résoudre à qualifier de nymphomane. Anecdote par-ci, rumeur par-là au sein de la bande, il en a pris de plus en plus, et des vertes et des pas mûres, susceptibles de le refroidir, punaise. Mais il repensait alors à sa suprême beauté, à la fanfare municipale où elle régnait, et surtout à ses exceptionnels talents comiques et provocateurs, et il avalait tout de même la couleuvre. Parmi les habitués de la bande, il y en avait un qui émergeait du lot. Il faisait tache parce qu'il n'était pas du même milieu. C'était en effet le tenancier d'un camping qui se trouvait à proximité des cabanes de plage. C'est lui qui avait trouvé ces cabanes à louer aux Strasbourgeois et ils avaient sympathisé. Un petit gros chauve à la voix criarde de Fauchet qui s'appelait Joe. Un béret basque pour couvrir sa calvitie. Et c'était curieux de le voir en maillot de bain avec son béret. Il était dépourvu d'éducation. Pourtant, même s'il était rusto et manquait de manières, la ruse lui tenait lieu d'intelligence. Il savait voir les failles des gens et saisir les opportunités des moments. Sa façon de se comporter avec la liégeoise, son ton patelin, ses rires gras et insistants, ses tactiles approches lui donnant l'accolade par-ci ou la touchant furtivement par-là pour s'en éloigner aussitôt, en feignant d'être gêné. Tout laissa penser à Mahwood qu'il l'avait connu bibliquement, autrefois, et peut-être même encore aujourd'hui, et qu'il lui jouait une sorte de rôle sur catalogue. Ce qui agaçait Mahwood, c'était pas tellement qu'il ait été son amant, car il était loin d'être le seul. C'était plutôt ce petit jeu pré-programmé qui lui apparaissait comme une attitude convenue. il la narguait, mais un peu comme si elle le lui avait demandé. Aussi, il ne put se retenir de lui dire
« Comment as-tu pu accepter avec un pareil goujat ?»
Il la regarda dans le fond des yeux et elle aussi. Après un moment de silence et voyant qu'il avait deviné, Marie-Jo partit d'un rire hystérique et en cascade. Puis répondit
« J'aime bien les goujats. Et celui-là, il a une manière de faire qui n'est pas la nôtre.
C'est quoi la nôtre ?»
Oh, disons la façon bien polie et sucrée des bons bourgeois.
Et lui, qu'est-ce qu'il a de si spécial qu'on n'a pas, nous, les bourgeois?
Et il me tourne autour comme un fauve qui me renifle. Ça m'excite. Et puis, pour la castagne, c'est un pro.
Ah, Yanné, donne donc des détails.
Non, ces choses-là, je ne veux pas en parler.
Ça les démystifierait.
C'est mieux d'en préserver le mystère.
Préserver le mystère, tu parles,
pensait-il.
Elle a de ses façons d'évoquer ses marottes et obsessions qu'elle se gêne pas de le révéler à la plage.
Khalil était assez crispé par le style de ce rustre. Surtout depuis que Marie-Jo avait fermé la porte à toute discussion sur ce sujet. Il le voyait pourtant à l'œuvre, et cela ne faisait que l'horripiler davantage. Il le voyait notamment lui faire des clins d'œil ou lui enlacer la taille subrepticement et sans insister. Il le voyait emballer d'autres filles de la bande sans effort, alors qu'il était quand même vilain, ou au minimum peu distingué. Il l'entendait aussi parler à Miss Liégeois à la troisième personne. « Alors, la dame a passé une bonne nuit, elle a eu sa ration, sa bonne dose ?» Ou, plus subtil, « La dame est déjà sans rien par ce beau matin. Il lui faudrait un bracelet, ça ferait plus distingué. Ou un bijou à l'annulaire, ça ferait plus habillé. » Et après cette vanne, il partait d'un éclat de rire vicelard. Mahoud était d'autant plus irrité qu'il sentait que la Liégeoise était envoûtée par ce langage agressif qui la provoquait, la picotait de-ci, de-là et remettait le couvert, rechargeait les batteries à des moments où, en principe, elle devait s'estimer vidée de toutes ses pulsions nocturnes. D'ailleurs, elle finit par suivre les recommandations comiques de Joe. Et en vint à plus s'habiller sur cette plage. Mais les colliers, chapeaux de cérémonie à large bord ondulés, boucles d'oreilles à pendentifs, chaussures à talons aiguilles, et même parfois, quoique plus rarement, les fines culottes noires très ajourées et quasi transparentes qui convenaient bien à sa pommade, tous ces accessoires ne faisaient qu'accentuer, voire sublimer, sa nudité ostentatoire et suscitait de la part de Joe des compliments non dénués d'ironie. « Ah, la dame s'est couverte aujourd'hui! Joli chapeau! Ça pourrait faire parasol !» Ou « Très bien, le slip qui ne cache rien et les ongles sont bien peinturlurés. Comme il se doit, faudra bientôt penser aux accessoires nocturnes. Rouge à lèvres, mouche aux joues, fond de teint, faux cils. » Il persiflait, en plaisantant. Mais il y avait dans son ton quelque chose de légèrement impératif, comme si tout ça allait de soi et à quoi elle devrait se plier, que ça lui plaise ou non, de sorte qu'on ne savait plus trop s'il plaisantait pour de bon ou s'il donnait des ordres. Il arrivait même à Marie-Jo de s'habiller sur la plage d'une robe longue, figurez-vous. Ce qui était inhabituel. Mais les dites robes, beige ou noire, avaient été spécialement confectionnées pour elle et étaient constituées de petits carreaux suffisamment larges pour que l'on puisse tout voir de ses formes généreuses. En fait, cette robe était plus indécente que la nudité elle-même. Et quand elle en mettait une, c'était le signe qu'il y allait avoir, le soir, une grande fiesta. Anecdote par-ci, rumeur par-là, Khalil en a pris toujours un peu plus. On disait que ce n'était pas seulement un camping que Joe gérait non loin de la plage, de l'escalet, mais aussi un hôtel, l'hôtel de la Tortue à Toulon, un hôtel pas très recommandable, disait-on. Un hôtel où l'on pouvait faire des passes, et même des passes payées. Bref, une sorte de bordel. On allait jusqu'à murmurer que la Liégeoise elle-même y aurait fait quelques séjours.
Un des Strasbourgeois aurait même poussé sa curiosité malsaine jusqu'à venir épier les abords de l'hôtel de la Tortue peu avant les vacances et prétendait l'y avoir vu faire les 100 pas dans la rue en perruque brune. Quand on lui objectait qu'il avait dû la confondre avec une vraie brune, que ce n'était pas possible, que jamais elle n'aurait pu accepter de se dégrader à ce point, pour un acte d'ailleurs, souvent réduit à sa plus simple expression, alors qu'au contraire, elle recherchait le fignolage copulatoire sophistiqué. Le gars n'insistait plus ou disait « Je me suis trompé ». Pourtant, elle lui ressemblait. De sorte que le mystère continuait de planer. Ça jasait, ça glosait, il y en avait même des tortueux qui disaient « C'est parce qu'elle doit aimer palper du pognon pour se faire baiser, ça doit l'exciter, et ceci et cela. » Évidemment, quand Marie-Jo se pointait, tout le monde la fermait. Car une bonne calomnie ne prospère bien que si elle n'est pas mise au grand jour, mais plutôt propagée mezzo voce.
Bon sang, c'est-il pas Dieu possible qu'elle se livrât de telles infamies monnayées? C'était certainement une calomnie que des langues de vipère avaient colportée. Un jour, où il n'y tenait plus, le bijoutier mit sur le tapis l'affaire de l'hôtel de la Tortue, attendant, espérant des dénégations véhémentes de la demoiselle. Et quelle ne fut pas sa surprise d'entendre la réponse qui tomba brute et sans fioriture.
« J'en ai toujours eu envie. »«
Envie de quoi ?»«
De faire le trottoir. »
Stupeur et stupéfaction. Comment une bourgeoise sophistiquée et plutôt de la haute, spécialiste d'ostéopathie et tout, et au surplus percussionniste dans un orchestre municipal, aurait-elle pu s'abaisser à se livrer à une prostitution de bas étage? C'était ahurissant.
Donc cette rumeur était vraie?
C'est moi qui l'ai faite courir.
Comment ça?
Je suis sûre que tu y as cru et que t'es tombée dans le panneau.
Khalil n'y comprenait plus rien. Ainsi, cette rumeur était fausse et c'est Marie-Jo qui la propageait.
J'en ai toujours rêvé, mais je ne suis jamais passée à l'action.
Avoua-t-elle en souriant. Mais ce sourire était un peu étrange, énigmatique en fait. Et celui de Joe, quand il la regardait, l'était aussi. Était-ce si sûr qu'elle n'était jamais passée à l'action à l'hôtel de la Tortue? Ah, ce doute, ce doute. Une dizaine d'années passèrent. Et Marie-Jo atteignit glorieusement la fin de la trentaine. Elle s'aperçut alors qu'il lui manquait quelque chose. En fait, elle manquait de mari pour avoir des gosses. Il était donc urgent d'en trouver un, car passé la quarantaine, ce serait plus difficile d'enfanter. Certes, ce ne sont pas les hommes qui faisaient défaut autour d'elle, car ils se pressaient tous au portillon pour la bousculer, vu sa vie tumultueuse, ou se partager ses faveurs. Mais quant à causer mariage, c'était une toute autre affaire. Et là, ils étaient plutôt du genre évasif, voire fuyard. Tous, sauf un, Mahoud. Il était toujours là. Il était toujours admiratif, toujours fervent, et nullement découragé au bout de 10 ans.
Mais qu'est-ce donc qu'il avait de mieux que les autres ?
Aurait pu demander les copines de la plage.
Il n'était pas plus charmant ? Non.
Aurait pu répondre Marie-Jo.
Plus intelligent ? Non. Plus énergique ? Non plus. Mais alors qu'est-ce qu'il avait de spécial ? Il était là.
Entre-temps, la relation s'était un peu approfondie. Même si Khalil n'était pas jaloux puisqu'il supportait sans difficulté cette situation consistant à partager sa Josette avec bien d'autres admirateurs, il avait néanmoins des petites manies, comme s'il avait reporté sur les choses son attachement à l'exclusivité. En particulier, il tenait à avoir la propriété matérielle de certaines musiques et de quelques films, et il avait conservé, bien que ce ne fût plus à la mode, une collection de CD et de DVD qui les contenait. Quand on lui faisait remarquer qu'il lui était loisible d'y avoir accès par Internet ou autre moyen de communication moderne, il répliquait
« Peut-être, mais c'est fastidieux pour les retrouver, tandis qu'avec ça… »
Il montrait le coffret
« Pas de problème. »
Si l'on objectait qu'il suffisait de taper ou de donner au téléphone le nom de la chanson ou de la musique, ou de l'œuvre cinématographique pour en disposer automatiquement sans se mettre en peine de la rechercher, il disait
« Possible, mais ce n'est pas à moi et immédiatement disponible. C'est dans le domaine public. »
Son expression « domaine public » avait quelque chose d'un peu méprisant. Sans doute était-il habitué par son commerce à avoir des objets qui ne resteraient pas longtemps dans sa boutique puisqu'ils étaient offerts à la vente. Il faisait ainsi une distinction nette entre les bijoux qui étaient proposés à l'achat et les choses qu'il gardait, des formations professionnelles. Il préférait par exemple le Sacre du Printemps dirigé par Pierre Monteux, mais plus précisément l'enregistrement de 1913 qu'il avait réussi à se procurer, même si la prise de son était à cette époque moins bonne. Et si on lui signalait que justement le vieux film qu'il voulait, Vérité et mensonge d'Orson Welles ou Spartacus de Stanley Kubrick, pouvait se trouver sur Internet à la vente ou à la location, il prétextait que ces versions avaient été expurgées ou très légèrement censurées de scènes licencieuses de quelques quarts de seconde. Et même si on lui démontrait que ce n'était pas le cas, il prétendait avoir la version d'origine subliminale, disait-il. En fait, il tenait à disposer de sa collection personnelle, qu'il avait soigneusement classée par ordre alphabétique. D'ailleurs, quand il en extrayait un numéro, il sifflotait toujours et rituellement le même petit air lancinant. Paradoxalement, ces marottes, loin de le ridiculiser aux yeux de Josette et de la faire fuir, étaient au contraire fort appréciées car elles piquaient sa curiosité toujours insatiable. Elle les percevait comme un signe d'originalité ou d'authenticité ou même de différenciation par rapport à elle-même car elle était plus moderne. Et justement pour cette raison, parce qu'elle était plus moderne, recherchait la compagnie secourable de personnes autres, s'attachant à éviter tout ce qui pouvait lui ressembler. De même, quand ils allaient danser au Papagayo ou au Biblo, c'est qu'une musique de rock'n'roll était exceptionnellement diffusée, il n'était pas question pour Khalil de s'y livrer banalement. Il tenait à le faire acrobatiquement et l'avait appris à Marie-Jo, qui se prêtait volontiers à ce genre de gymnastique chorégraphique car elle lui permettait de mieux exhiber ses tournures corporelles et ainsi de se faire remarquer et mater par les mecs, surtout quand elle avait réduit au maximum sa tenue vestimentaire, ce qui était fréquent. Rock signifiait donc acrobatie, automatiquement et irrémédiablement. I just can't wait. Il y avait ainsi une série d'incongruités, même dans le domaine sexuel, qui donnait à Khalil une spécificité. Si Marie-Jo était sensible à ses maniaqueries, c'est qu'elle avait une raison inavouée. Comme ils avaient l'un et l'autre, ou plutôt l'une plus que l'autre, une vie assez tumultueuse, la connaissance de ses habitudes lui paraissait une entrée secrète dans une sorte d'intimité avec Khalil qui venait racheter ses débordements sexuels tous azimuts. Ce
« rachat de la faute »
lui plaisait, comme s'il effaçait le reste et apportait une complicité, un partage qui plaçait Mahoud en dehors de la bande en lui donnant une sorte de supériorité. C'est elle qui proposa à Khalil de lui mettre la bague au doigt. Ce choix s'expliquait pour deux raisons. D'abord, il lui fallait s'assurer que l'époux tiendrait le choc des épreuves et s'occuperait bien des enfants, les orientaux étant plus doués pour cela que les occidentaux. Ensuite et surtout, il lui fallait rapidement mettre un terme définitif à la vie dissolue qu'elle avait menée jusque-là. Et Khalil, qui la connaissait depuis si longtemps, pourrait constituer une sorte de sas entre la vie d'avant et la vie future. C'est ce qu'elle se disait. Et en effet, elle arrêta tous ses excès du jour au lendemain. Et pendant plus de 15 ans, on ne la vit plus à Saint-Tropez, car elle se consacrait à ses enfants. Quand elle atteignit le milieu de la cinquantaine, les enfants étaient devenus des adolescents, presque des grands, et Marie-Jo entendit en son fort intérieur l'appel de la fanfare et du feuilleté à la crème. Toutefois, une nouvelle difficulté se présenta. Après cette sorte de retraite familiale pendant plus de 15 ans, Marie-Jo avait un peu perdu ses habitudes baroques et ses audaces excentriques. Par ailleurs, son intensité de libido avait nettement décliné faute de pratique. Certaines dames, pour renouer avec de tels vilains penchants, ont parfois recours aux hormones. Ce ne fut pas le cas de Marie-Jo, qui avait une meilleure solution, laquelle portait un nom, celui de Joe. Ce fut à ce moment qu'il lui téléphona.
« Alors, après cette si longue absence, la dame serait-elle de nouveau disponible ?»«
Oui, »
s'entendit-elle répondre.
« Et même à l'hôtel de la Tortue ?»«
Même, »
osa-t-elle répondre. Alors la question se pose dans toute son ampleur. Allait-elle reprendre du service à la Tortue ? Ah, ce doute, ce doute. Spending too much time away. I can't stand another day. Maybe you think I've seen the world, but I'd rather see my girl. I'm going home. 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 Boom, 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 home. Boom, 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 back home. Yes, I am. All those letters every day. I may be all right in their way, but I'd love to see your face when I get home in their place. I'm going home.
Vous venez d'entendre la fin des aventures de Marie-Josette Liégeois de Patrick Simon. Histoire à la loupe.
entendre Il était une fois, dirigé par Patrick Simon, avec en première partie Il était une fois, enregistré le 9 avril 2026, rediffusé en direct vendredi 10 avril 2026 et réalisé par Claudia et Jocelyn, et en deuxième partie Histoires à la loupe, du 16 janvier 2026, rediffusé le vendredi 10 avril 2026 et réalisé par Virginie, montage et arrangement sonore Sandrine. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs, aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.